À la radio sur France Inter, Sonia De Villers est habituée à faire vivre les histoires qui cernent et révèlent l'époque. Des histoires, elle en a elle-même les épaules lourdes. Celles de ses grands-parents maternels, Harry et Gabriela Deleanu, partis de la Roumanie communiste et arrivés à Paris en décembre 1961. Non pas déportés, mais exportés, parce que juifs, contre du bétail et du matériel agricole. Une histoire vraie aux allures de fiction, une traite humaine massive et abondamment documentée dans son premier roman, Les Exportés, sorti en 2022. Un pas de côté dans la littérature pour cette journaliste qui, dans la vie, aime faire une liste des auteurs déjà lus, car dit-elle, ça lui fait du bien, et se plonger dans les légendes du roi Arthur et des chevaliers de la Table Ronde. On la retrouve pour nous en parler dans cette saison 2 du Qu'est-ce qu'il lit du monde des livres.
Qu'est-ce qu'il lit, qu'est-ce qu'il lit, qu'est-ce qu'il lit.
Bonjour Sonia De Villers.
Bonjour.
Bienvenue dans notre studio installé au Salon du Livre du Mans, Faites lire. Nous allons discuter ensemble des livres qui vous ont marqué, ému, déplu, voire ceux qui, comme le disait une lectrice à Simone de Beauvoir, ont arraché une espèce de peau épaisse qui vous collait. Est-ce qu'il y a un livre dont vous diriez qu'il vous réconcilie avec votre vie, avec l'existence sur cette planète?
Un livre qui réconcilie pour moi, c'est Little Nemo de Winsor McCay. Donc, c'est une immense bande dessinée qui ne rentre dans aucune étagère, dans aucune bibliothèque, à moins qu'elle ne soit faite sur mesure pour ce livre gigantesque. C'est une bande dessinée publiée entre 1905 et 1914 dans les pages du New York Herald. Et c'est l'histoire d'un petit garçon de 5 ans qui chaque soir s'endort et dans son sommeil, un mystérieux serviteur vient le chercher pour l'emmener au pays des rêves, parce que le roi Morphée veut lui présenter sa fille, la princesse. C'est des dessins d'une beauté immense et c'est tout ce qui compte pour moi dans la vie et ce en quoi je crois, c'est-à-dire le pouvoir de l'imaginaire.
Et alors justement, comment vous avez découvert ces dessins, ces récits?
C'est des souvenirs d'enfance et moi je suis très attachée aux livres de l'enfance. Je pense que c'est des livres qui vous suivent toute votre vie.
Vous relisez les livres d'enfance?
Ah, je relis les livres d'enfants, oui, absolument.
Lesquels?
Je relis énormément de contes. Moi, j'ai une enfance qui est bercée par les contes et légendes. Je relis les contes de Grimm. Je pense que ce sont des chefs-d'œuvre de la littérature. Le livre qui m'a marqué énormément enfant, le premier livre que j'ai lu, l'un des premiers souvenirs de lecture que j'ai, c'est Philippe Soupeau, qui est un des cofondateurs du surréalisme, qui avec son épouse Ray Soupeau collecte des contes et légendes du monde entier. Et il y en a un qui m'a particulièrement marqué, qui s'appelle Le Dragon Jaune et Le Dragon Bleu. Et c'est l'histoire d'un empereur qui passe commande auprès d'un peintre le plus vieux et le plus célèbre des peintres du royaume et qui lui demande de peindre sur un paravent de soie, sur deux paravents de soie, un dragon bleu et un dragon jaune. Et le peintre va mettre des années et des années à se préparer à passer à l'acte, à se préparer à ce geste artistique. Je vous ai apporté un passage, donc je vous le lis. Le peintre accepta enfin de suivre le messager. Quand il arriva devant l'empereur, il déclara qu'il pensait être maintenant capable de peindre les dragons. L'empereur manifesta sa joie. L'artiste se fit apporter de la couleur jaune, de la couleur bleue, deux longs pinceaux et s'approcha du paravent. D'un seul coup de pinceau, le peintre traça un trait jaune, puis d'un autre coup de pinceau, un trait bleu. Il déposa ensuite ses pinceaux et déclara qu'il avait achevé son travail. Et évidemment, l'empereur va rentrer dans une colère magistrale et le peintre devra lui expliquer qu'il lui a fallu une vie entière de travail et d'exercice de son art pour arriver à cette absolue pureté et simplicité du geste que le dragon n'est plus qu'un trait.
Le passage à la lecture est un acte simple, vous, lorsque vous avez grandi?
Moi, j'ai lu très tôt, très vite, beaucoup, dans une maison où il y avait beaucoup de livres et il n'y avait aucune frontière entre la bibliothèque des enfants et la bibliothèque des parents. Donc, on pouvait prendre tout ce qu'on voulait dans la bibliothèque des parents. Et tant pis, si c'était choquant, tant pis si c'était trop difficile, tant pis si ça s'abandonnait en cours de route, peu importe. On choisissait.
Est-ce qu'il y a des livres dont vous considérez que vous avez lu trop tôt?
Il y a plein de livres que j'ai lus beaucoup trop tôt. Et comme j'ai un surmoi gigantesque, je me suis, mais vraiment, obligée à les terminer et à en penser quelque chose. J'ai un plaisir immense à relire.
Qu'est-ce que vous avez relu récemment?
Récemment, j'ai relu L'Enfant de Jules Vallès. Je suis restée absolument sidérée par la beauté inouïe de ce texte. Je suis restée absolument suspendue à ce portrait de mère, à ce portrait de père, à cette relation que et l'un et l'autre ont à l'enfant. Et je ne pouvais rien en comprendre à l'âge où j'ai lu L'enfant de Jules Vallès. Je pense qu'on lit L'enfant de Jules Vallès beaucoup, beaucoup trop tôt, beaucoup trop jeune.
Vous identifiez un héros, une héroïne, un narrateur, une narratrice, c'est important pour vous lorsque vous lisez ?
Oui, c'est important.
Est-ce qu'il y en a un qui aurait pu prendre cette place de héros ou d'héroïne préférée dans lequel vous vous serez bien glissé ?
Ah oui, ah, moi c'est les Chevaliers de la Table Ronde. J'aurais adoré faire partie des Chevaliers de la Table Ronde. Et alors, c'est-à-dire qu'en aucun cas j'aurais voulu être ni la fée Morgane, ni la fée Viviane. En aucun cas, je n'aurais voulu être une princesse en péril. En aucun cas, je n'aurais voulu être la reine Guenièvre. Jamais. C'est-à-dire, moi, j'aurais voulu être ou Lancelot, ou Arthur, ou Gauvin, ou Perceval. C'est-à-dire que j'avais envie de vivre l'aventure avec eux, comme j'aimerais faire partie de la communauté de l'anneau au début du Seigneur des Anneaux.
Donc, vous auriez réécrit les aventures.
J'aurais réécrit les aventures où moi, j'aurais été autre. Donc non, j'aurais pas réécrit les aventures pour qu'il y ait une petite Sonia avec un glaive et un home et un fidèle destrier. Je me serais glissée dans la peau de Lancelot.
Est-ce que les Chevaliers de la Table Ronde, ça fait partie des livres que vous offrez?
Alors,
que
non.
Vous avez lu à vos fils?
Alors, que j'ai lu à mes fils, que j'ai absolument lu à mes fils. Moi, on m'a lu des histoires, mon père m'a lu, à moi et ma sœur, nous a lu des histoires très tard. Nous a lu des histoires alors qu'on savait déjà lire par nous-mêmes. Et ça, je pense que c'est un geste de transmission absolument formidable. Je pense qu'il y a une forme d'oralité. C'est quelqu'un qui lisait très bien à voix haute, c'est quelqu'un qui parle très bien. Et je pense que dans cette oralité que moi j'ai choisi d'en faire mon métier à la radio, c'est quelque chose qui a beaucoup compté. Donc je sais que moi, on m'a lu les aventures de Tom Sawyer et de Huckleberry Finn, je sais qu'on m'a lu L'encre de miséricorde, je sais qu'on m'a lu tous ces textes, on m'a lu des Jules Verne, on a lu L'île mystérieuse, etc., à des âges où j'aurais pu presque les lire par moi-même, mais ça permettait de lire des livres beaucoup plus longs et ça permettait de passer un moment ensemble et le texte devenait oral. Enfin, il y a quelque chose de très fort là-dedans. Moi, je l'ai fait beaucoup avec mes fils. J'ai lu énormément d'histoires, y compris quand ils savaient déjà lire. Ouais.
Vos fils vous offrent des livres ?
Non, mais mes fils ne m'offrent pas de livres. Il y en a un qui s'est remis à lire, celui qui a 17 ans, et celui de 15 ans qui, pour l'instant, n'aime pas ça. Qui a même pas lu mon propre livre. Il me dit qu'il a la flemme.
J'ai cru comprendre que vous aviez une liste de livres.
Oui, chaque livre que je lis, je le consigne dans une liste. Je ne sais pas pourquoi je fais ça.
Pourquoi? Oui, depuis longtemps?
Ouais, depuis très longtemps. J'ai année par année tous les livres que j'ai lus.
Et vous la communiquez cette liste?
Jamais. Mais j'ai peur que les livres s'en aillent, j'ai peur que le souvenir des livres me quitte, j'ai peur de ne pas pouvoir les conserver avec moi. Je ne prête jamais mes livres, je ne donne jamais mes livres. J'ai une très grande bibliothèque qui mange la moitié de mon salon. J'ai besoin de vivre avec mes livres et j'ai besoin de relire cette liste. Et chaque fois que je relis cette liste, c'est des moments de vie qui reviennent. C'est une sorte de compagnonnage, c'est très important.
Alors dans cette liste, est-ce qu'il y a un livre que vous souhaitez terminer avant de mourir ?
Alors dans cette liste, il y a un livre justement que je n'ai pas achevé. Donc tant qu'il n'est pas achevé, il ne peut pas être consigné dans la liste. Donc c'est les récits de la Colima de Varlam Shalamov. Les récits de la Colima, ce sont les récits du goulag. C'est donc une expérience carcérale extrême. Et c'est presque 1500 pages imprimées sur papier Bible. Je suis à la moitié. Et probablement qu'évidemment qu'avant de mourir, j'aurai terminé les récits de la Colima. Mais c'est un livre-monde. C'est un livre extraordinairement complexe et en même temps très facile à lire. C'est un livre qui intègre en son sein ce que c'est qu'un livre et le pouvoir des mots ou l'impuissance des mots et du langage. C'est un livre d'une beauté extraordinaire et d'une intelligence phénoménale. Donc en fait, je voudrais plus que l'avoir lu avant de mourir, je voudrais l'avoir, absorbé, assimilé. Je voudrais réussir à le faire mien. Et ça, je pense que c'est impossible.
Et peut-être que cette assimilation va passer par une petite lecture,
oui,
d'un extrait.
Voilà, par une petite lecture. Les anciens détenus pour lesquels le camp a été facile, si toutefois il peut être facile pour quelqu'un, estiment que la période la plus dure de leur existence a été la privation des droits et l'errance qui ont suivi leur détention. Lorsqu'ils ne parvenaient pas à trouver une stabilité de vie, cette fameuse stabilité qui leur avait permis de survivre au camp, ces gens s'étaient adaptés au camp d'une façon ou d'une autre. Et le camp s'était adapté à eux, leur fournissant de la nourriture, un soir et un travail. Il leur fallait changer brusquement d'habitude. Ils constataient le naufrage de leurs si modestes espoirs.
Qu'est-ce qui vous fait arrêter une lecture et qu'est-ce qui vous fait la reprendre ?
Je trouve que c'est extrêmement difficile de lire. Pour moi, c'est vraiment un moment de grâce. C'est un moment privilégié. Donc, c'est très peu de fois dans l'année. Donc, on va mettre de côté la lecture pour le travail. C'est-à-dire que tout ce que je dois absorber pour préparer mes émissions. Ce que j'appelle pas de la lecture, j'appelle ça du travail. Moi, il y a un endroit au monde où je ne peux pas travailler. Ah, quel lapsus épouvantable ! Il y a un endroit au monde où je travaille très bien et où malheureusement je ne peux pas lire, c'est chez moi. Je ne peux pas lire chez moi. C'est-à-dire que je suis sans cesse interrompue. Sans cesse interrompue parce que mes pensées divaguent. Je suis sans cesse interrompue parce que je suis appelée par les réseaux sociaux. Je suis sans cesse interrompue par les enfants. Je suis sans cesse interrompue par le travail, par les tâches domestiques, par la tenue d'une maison, par le téléphone. Voilà, j'adore parler au téléphone. Je pourrais passer ma vie à parler au téléphone. Le seul moment où je peux commencer à lire, c'est le moment où je pars de chez moi. C'est le moment, c'est le début des vacances. Voilà.
Dans le train, en vacances ?
Dans le train, dans l'avion. Allongé sur une plage. Je pense que le plus bel endroit au monde pour lire, c'est allongé devant la mer, quelle que soit la mer. Voilà. Ça peut être une mer très près de chez moi, ça peut être une mer très, très lointaine, mais peu importe. Je trouve que ces deux plans parallèles, qui est ce plan serré du regard sur la page du livre et ce plan large, qui est celui de l'horizon, l'un devant l'autre, deux échelles de plans, comme on dit au cinéma, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau. Et il n'y a rien qui favorise mieux la lecture que d'être face à la mer.
Est-ce qu'il y a un livre plutôt méconnu qui vous emballe particulièrement et dont vous aimeriez davantage parler ?
Moi, il y a un livre que j'aime énormément qui s'appelle « En lieu sûr » de Wallace Stegner. Alors, on ne peut pas parler d'un chef-d'œuvre inconnu. C'est-à-dire que Wallace Stegner, c'est une grande figure de la littérature américaine, prix Pulitzer. Mais « En lieu sûr », c'est probablement son livre le moins connu et le plus tardif. C'est un livre magistral, en lieu sûr. C'est l'histoire de deux couples qui vieillissent et qui se connaissent depuis très longtemps. C'est un livre qu'il faut lire, à mon avis, à plusieurs âges de sa vie, parce que c'est un livre qui retrace la jeunesse. C'est un livre qui raconte la conjugalité sur le long terme. C'est un livre qui raconte ce que c'est que d'entrer dans la vieillesse. C'est un livre qui raconte des relations très complexes entre hommes et femmes, les dessous de l'amitié. Et c'est un livre qui donne tellement, tellement envie de traverser le Vermont aux États-Unis.
Vous considérez que vous êtes douée pour résumer les livres ou pas ?
Non. Je suis jamais douée pour parce que je suis extrêmement bavarde et j'adore parler et je parle trop. Donc l'idée de résumer, c'est l'idée de synthèse et j'ai du mal à faire de la synthèse.
On attend de vous une certaine prescription dans les livres que vous lisez ou pas ?
Alors oui, beaucoup. Mais moi, je suis du style
indépendamment du travail à radio.
Totalement, ouais. Totalement. Mais moi, c'est d'abord, tout ce que je vis, je le raconte. Je vous disais que j'aimais énormément parler au téléphone. Tout ce que je vis, je le raconte et j'adore le raconter. Et même d'ailleurs, pour être bien sûr que j'ai vécu les choses, j'ai besoin de les raconter une fois, deux fois, trois fois, etc. Et donc, tout ce que j'aime, j'ai besoin de le partager avec un enthousiasme. Et alors après, j'attends que les gens qui m'entourent aient lu, aient goûté, aient vu, aient visité. Et j'ai envie qu'on en parle. Et je leur casserai volontiers les pieds jusqu'à ce qu'ils aient lu, goûté, vu, visité et qu'on puisse partager.
Et qu'est-ce que, justement, dans l'écriture de votre premier roman, vous avez revisité ou pas partagé, finalement, avant l'écriture ?
En fait, c'est pas exactement un roman. C'est vraiment un récit familial. Donc, il a fallu pour ça remonter le fil des générations. Il a fallu pour ça traverser des souvenirs familiaux qui avaient été racontés, qui avaient été partagés, mais qui avaient été complètement évidés de toute leur substance et de toute la vérité de ce qui se cachait derrière ces situations, racontées de manière très anecdotique et pourtant devenues en réalité des moments de terreur et des moments de peur. Donc, il m'a fallu lire beaucoup pour compléter justement tous les manques de ces récits familiaux. Il m'a fallu lire des historiens, mais j'ai lu aussi de la littérature. Par exemple, j'ai lu un livre extraordinaire qui s'appelle « Le journal de Mireël Sébastian ». Mireël Sébastian, très grand écrivain roumain, qui a exactement le même âge que mes grands-parents, puisque l'histoire que je raconte se passe en Roumanie dans les années 60. Et Mireël Sébastian tient son journal de 1935 à 1945 à Bucarest. Il est de la même génération que mes grands-parents. Et en fait, il raconte l'histoire de la fièvre antisémite qui petit à petit va engloutir Bucarest. Et en fait, il raconte les mêmes souvenirs, les mêmes anecdotes que mes grands-parents, mais il raconte l'envers du décor. Et ce livre, pour moi, ça a été un choc immense. C'est-à-dire que je retrouve tellement de mots de mes grands-parents, tellement de petites histoires, tellement du folklore, tellement des souvenirs qu'ils partageaient avec leur petite fille. Et je découvre l'immensité du non-dit, de ce qu'il y avait dans leur
système, finalement. Voilà, c'est là où vous comprenez que ça fait système. Ouais. Merci Sonia De Villers. Votre livre, Les Exportés, est publié aux éditions Flammarion. Et depuis la rentrée, on vous écoute pour le 9h10, le magazine de la matinale de France Inter. Retrouvez tous les épisodes des Qu'est-ce qu'il lit sur lemonde.fr et sur les plateformes de streaming. À bientôt et surtout, bonne lecture.